Alexandre Dumas et Auguste Arnoux. L'homme au masque de fer. Voilà bientôt 100 ans que cette curieuse énigme exerce tour à tour l'imagination des romanciers, des dramaturges et la patience des érudits. Il n'y a pas de sujet plus obscur, plus incertain et en même temps plus populaire. C'est comme une légende dont personne ne sait le mot et à laquelle tout le monde ajoute foi. Cette longue captivité, quand accompagnée de si étranges précautions, excite toujours une compassion involontaire, une sorte de terreur dont il est impossible de se défendre, et le mystère qui plane sur la victime augmente encore la pitié qu'elle inspire. Peut-être si l'on eût connu d'une manière certaine le véritable héros de cette lugubre histoire, l'aurait-on déjà oublié. Un nom propre eût fait redescendre cette grande information au rang des infortunes vulgaires qui épuisent bien vite l'intérêt et les larmes. Mais cet être retranché du monde où l'on ne peut retrouver sa trace, où sa disparition n'a pas laissé de vide, ce captif désigné entre tous les autres pour un supplice sans exemple, à qui on a donné une prison dans une prison, comme si les murs d'un cachot ne devaient pas peser assez étroitement sur lui, nous apparaît semblable à une personnification poétique de la souffrance qui résume en elle toutes les injustices de la tyrannie, toutes les misères humaines. Quel était cet homme masqué? Avait-il échangé contre le silence de la réclusion la vie voluptueuse du courtisan, ou les intrigues du diplomate, ou l'échafaud du proscrit, ou le bruit du champ de bataille? Qu'avait-il perdu? Ou l'amour, ou la gloire, ou le trône? Quels étaient ses regrets à lui qui n'avait plus d'espérance? Était-ce des imprécations qu'il exhalait, des malédictions sur ses bourreaux et des blasphèmes contre le ciel, ou seulement les soupirs d'une âme patiente et résignée? Le même malheur arrache des plaintes diverses selon ceux qui souffrent. Et quand on pénètre par l'imagination sous les voûtes de Pignerolles et d'Exil, quand on se renferme aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille, témoins successifs de cette longue agonie, chacun, livré au hasard des conjectures, se représente le prisonnier suivant son caprice et ses sympathies et lui compose une douleur avec ses propres émotions. On voudrait interroger ses réflexions solitaires, sentir battre le cœur qui animait cette machine vivante et chercher la trace des larmes qui ont coulé derrière ce masque impassible. L'imagination s'exalte sur cette destinée muette, sur ce long monologue de la pensée que le visage ne trahissait pas, sur cet isolement de 40 années resserré dans une double enceinte de pierre et de fer. Elle prête alors à l'objet de ses rêveries une grandeur majestueuse, elle rattache le mystère de cette existence aux intérêts les plus élevés et s'obstine à voir dans le prisonnier la victime d'un profond secret d'État, immolé peut-être au repos des peuples et au salut d'une monarchie. La réflexion plus froide modère-t-elle ce premier entraînement? Vient-elle détruire cette croyance comme une illusion poétique? Je ne le crois pas. Il semble au contraire que le bon sens seconde ici l'élan de l'imagination. En effet, n'est-il pas naturel de penser qu'un secret gardé pendant de si longues années, avec tant de précautions et de persévérance sur le nom, l'âge et la figure du prisonnier, a dû être commandé par une nécessité politique des plus puissantes? Les passions humaines, telles que la colère, la haine, la vengeance, n'ont pas ce caractère d'acharnement et de durée. La cruauté même n'explique pas de pareils ordres. En supposant que Louis XIV eût été le plus cruel des princes, n'avait-il pas 1000 tortures à choisir, plutôt que d'inventer ce supplice bizarre? Pourquoi se serait-il placé volontairement dans l'obligation de maintenir autour du prisonnier ces précautions infinies et cette surveillance éternelle? Ne pouvait-il pas craindre que le mot de cette effrayante énigme ne sortît quelques jours des murailles où il le tenait renfermé? Source perpétuelle d'inquiétude pour son règne. Et cependant, il a respecté la vie d'un captif si difficile à garder, si dangereuse à découvrir. Une mort obscure eût tout prévenu. Il n'a pas voulu l'ordonner. Est-ce là de la haine, de la colère, de la passion enfin? Non, sans doute, et ce qu'il faut conclure de cette conduite, c'est qu'un intérêt purement politique a dicté les mesures prises contre le prisonnier. C'est que la conscience du roi, qui se prêtait aux rigueurs strictement nécessaires pour assurer le secret, ne put se décider à aller plus loin, ni à disposer des jours d'un infortuné qui, probablement, n'était coupable d'aucun crime. Les courtisans n'ont pas pour habitude de s'incliner devant l'ennemi de leur maître. Aussi, les égards, les respects même témoignés aux prisonniers masqués par le gouverneur Saint-Mars et le ministre Louvois semblent prouver à la fois et l'innocence de ce personnage et sa haute importance. Je n'ai, pour ma part, aucune prétention à l'érudition de bouquiniste et je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'homme au masque de fer qu'un exécrable abus de la force, un crime abominable dont l'impunité révolte. Lorsque, il y a quelques années, nous entreprîmes, M. Fournier et moi, de transporter ce sujet sur la scène, nous lûmes attentivement et nous comparûmes les différentes versions publiées jusqu'à cette époque. Deux relations ont paru depuis le succès du drame représenté à l'Odéon. L'une est une lettre de M. Billiard, adressée à l'Institut historique et qui reproduit la relation que nous avions adoptée d'après Soulavie. L'autre est un ouvrage du bibliophile Jacob qui introduit un système nouveau et qui fait preuve de recherches approfondies et d'une immense lecture. L'ouvrage du bibliophile n'a point ébranlé ma conviction. S'il eût paru avant le drame, je n'en aurais pas moins suivi la donnée que j'ai préférée en 1831, non seulement parce qu'elle est incontestablement la plus dramatique, mais parce qu'à mes yeux, elle est la seule vraisemblable, parce que seule, elle réunit les présomptions morales qui sont d'un si grand poids dans un pareil sujet, où tout est ténèbres et incertitudes. On dira peut-être que les écrivains qui travaillent pour le théâtre se laissent trop facilement séduire à l'appât du merveilleux et du pathétique, qu'ils sont disposés à sacrifier la logique à l'effet, l'approbation des savants aux applaudissements du parterre. Mais on pourrait répondre que, de leur côté, les érudits font trop souvent des sacrifices à l'amour des dates plus ou moins exactes, à l'interprétation d'un passage obscur avant eux, et que la discussion n'éclaire pas toujours à l'art ingénieux de grouper des chiffres et de coudre des phrases éparses dans quelques douzaines de bouquins. Cette étrange captivité est aussi curieuse à étudier, aussi importante à expliquer par les rigueurs dont on l'a entourée et par sa durée, que par les circonstances douteuses qui l'ont provoquée. Là où l'érudition seule ne suffit pas, où chaque dénicheur de texte reçoit à son tour le démenti qu'il a donné à son prédécesseur, il faut bien se laisser guider par une autre lumière que celle de la science, et l'on verra, par l'exposé de tous les systèmes, qu'aucun d'eux n'est établi sur une base inébranlable. La question est double quand il s'agit de l'homme au masque de fer. Après ce premier mystère, quel est l'homme au masque ? Se présente cette seconde énigme. Quel motif a prolongé jusqu'à la mort ce supplice inconnu ? Et c'est alors qu'il faudrait, pour réduire l'imagination au silence, une preuve positive, mathématique, et non pas de simples inductions. Sans soutenir et affirmer que l'abbé Soulavie a levé le voile qui cachait la vérité, je suis persuadé, je le répète, que nul système n'est préférable au sien et ne s'appuie sur de plus fortes présomptions. Ce n'est pas le succès immense et prolongé du drame qui me donne cette conviction inébranlable, mais la facilité avec laquelle on bat en brèche les opinions contraires en les réfutant les unes par les autres. Si ce n'était chez moi, en quelque sorte, une affaire de conscience, j'aurais pu aisément, dans un livre où les éléments de réussite sont tous différents de ceux nécessaires au théâtre, inventer un roman plein d'intérêt, avec les amours prétendues de Buckingham et de la reine, ou encore supposer un mariage secret entre le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche, en m'aidant d'un livre de Saint-Mihiel, livre que le bibliophile déclare n'avoir pas lu, quoique assurément il ne soit ni rare ni difficile à trouver. J'aurais pu également faire ici la paraphrase de la pièce et rétablir, pour leur faire jouer le même rôle avec moins de développement, les personnages historiques dont le drame avait quelquefois déguisé les noms et grandi l'importance et les proportions, tout en conservant à leurs actions un caractère de vraisemblance. quelque fable qu'on invente, quelque combinaison qu'on mette en jeu, rien ne saurait détruire l'intérêt qu'excitent les différentes histoires écrites sur le masque de fer et les détails presque toujours contradictoires d'auteurs ou de témoins qui tous se prétendaient très instruits. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque tout ouvrage, même médiocre, même détestable sur ce sujet, n'a jamais manqué de réussir, tel par exemple qu'un imbroglio du chevalier de Mouy, espèce de spadassin plumitif aux gages de Voltaire, imbroglio qui parut en 1746, sans nom d'auteur, à La Haye, chez Pierre de Honte, et formant six petites parties, sous le titre du « Masque de fer » ou « Les aventures admirables du père et du fils », tel encore qu'un roman absurde de Regnault Varin et un autre de Madame Guénard, en quatre volumes, in 18, Paris 1837. Au théâtre, l'auteur est obligé de prendre un parti exclusif. Il est soumis aux lois inflexibles de la logique, il obéit à sa pensée première et tout ce qui le gêne ou lui fait obstacle est mis à néant. Ce livre est fait, au contraire, pour la discussion. Nous plaçons sous les yeux du lecteur les pièces d'un procès qui n'est pas encore définitivement jugé et qui, probablement, à moins d'une découverte heureuse due au hasard, ne le sera jamais. Le premier qui est parlé du prisonnier est l'auteur anonyme des Mémoires de Perse, en un volume, in 12, publié en 1745 par la Compagnie des libraires associés d'Amsterdam. Note 1. Ce livre ne racontait que des faits déjà connus. Il eut cependant un si grand succès en Hollande et en France à cause d'une anecdote qu'on lançait dans le public pour la première fois, qu'on le réimprima la même année, in 16, format Elsevier, et l'année suivante, in 18, avec des augmentations. Quel était l'auteur de ces mémoires ? Il peut être important de le connaître comme étant le premier qui ait livré un tel appât à la curiosité de l'Europe. Nous ne saurions mieux faire que d'emprunter ici la discussion lumineuse et, selon nous, concluante du bibliophile Jacob qui nous semble avoir décidé la question par une interprétation habile et raisonnée et en même temps très vraisemblable. L'auteur serait-il, selon l'opinion commune, le chevalier de Rességuier qui fut mis à la Bastille vers cette époque ? Feuvré de Fontette, Bibliothèque historique de la France, tome 4, page 424. Mais le motif de son emprisonnement est mentionné sur les registres de la Bastille. On sait qu'il avait composé des vers contre Madame de Pompadour. Ne serait-ce pas, comme Madame du Haussay l'a consigné dans une lettre inédite, cette Madame de Vieux-Maison, une des plus méchantes femmes de son temps, qui prenait Crébillon-Fils pour éditeur responsable, mais Crébillon-Fils, qui plaçait volontiers en Perse les aventures licencieuses de ses romans, et qui publia même en 1746 Les amours de Zéokinissule, roi des Cofirans, Louis XV, roi des Français, ne se risquait pas dans la haute politique et se bornait à des récits galants fort goûtés à la cour. Serait-ce plutôt un nommé Péquet, commis au bureau des affaires étrangères, embastillé, dit-on, à cause de cet ouvrage ? Mais le livre pénétrait en France, sans doute par l'entremise des secrétaires d'ambassade qui faisaient le commerce des livres défendus, et un seul exemplaire saisi dans les mains de Péquet avait pu suffire pour motiver contre lui une lettre de cachet. Serait-ce enfin le duc de Nivernais, qui se reposait de ses campagnes en composant des fables dans la compagnie de Voltaire et de Montesquieu ? Mais le duc de Nivernais a eu grand soin de recueillir tout ce qu'il a écrit dans une édition de ses œuvres, Paris 1796, 8 volumes in 8vo. Faite dans un temps où la censure qui avait poursuivi les mémoires de Perse n'était plus là pour le forcer à l'anonyme. D'ailleurs, cette histoire allégorique ne présente aucun point d'analogie avec les habitudes littéraires du duc de Nivernais, poète délicat, écrivain spirituel, mais faible, timide et dépourvu d'invention. Les preuves donc font faute dans cette déclaration de paternité problématique, et M. Barbier, en offrant plusieurs conjectures à ce sujet dans son Dictionnaire des Anonymes, tome 2, page 400, deuxième édition, n'a point assez motivé sa préférence en faveur de Péquet par la citation d'une note manuscrite en tête d'un exemplaire qu'il possédait. On sait ce que vaut la garantie d'un faiseur de notes marginales quand il ne se nomme pas Huet ou Lamonois ou Merlier de Saint-Léger. Pour moi, je n'avancerai rien de mieux prouvé sur le véritable auteur de ces mémoires, mais aussi ne donnerai-je mon avis que comme une simple présomption. Je pense que les mémoires de la cour de Perse doivent appartenir à Voltaire. On y retrouve le style de ses contes avec plus de négligence et quelquefois son esprit caustique. Il ne paraît que trop d'ouvrages pour lesquels on demande grâce, dit l'avertissement, et ce, avec d'autant plus de raison qu'il en est presque point qui mérite qu'on la leur fasse. L'auteur suppose qu'un de ses amis, anglais de nation, dans un voyage à Paris, eut communication de quantités de mémoires secrets, manuscrits conservés dans la bibliothèque d'Ali Kouli Khan, premier secrétaire d'État, seigneur d'un mérite distingué, et entreprit de traduire une partie de ceux du règne de Shah Safi, Louis XV. Voilà bien les mémoires inédits que M. de W. signale dans sa lettre en invoquant le témoignage de Voltaire. Lettre de M. de W. à M. de G., initiale supposée, insérée dans le Journal des Savants du mois de juillet, page 348 de l'édition d'Amsterdam, qui n'avait encore rien écrit sur ce sujet. On reconnaît, en outre, le duc de Richelieu dans l'éloge d'Ali Kouli Khan, surtout lorsqu'on se rappelle que Voltaire recueillait alors les matériaux de son siècle de Louis XIV et consultait les souvenirs du maréchal, son ami et son protecteur. Dans l'avertissement, l'auteur annonce avoir traduit de l'anglais ses mémoires. Je prie le lecteur de considérer que le génie de la langue anglaise est bien différent de celui de la langue française. Celle-ci est plus claire, plus méthodique, mais moins abondante et moins énergique que la langue anglaise. Voltaire n'a-t-il pas répété 20 fois dans les mêmes termes ce jugement sur les deux langues ? En outre, Voltaire était en relation d'affaires avec la Compagnie d'Amsterdam depuis le voyage qu'il avait fait en Hollande dans l'année 1740 pour surveiller l'impression de l'anti-Machiavel du roi de Prusse. Ce fut dans cette circonstance qu'il eut à se plaindre d'un libraire hollandais nommé Van Duren, le plus insigne fripon de son espèce, disent les mémoires de Voltaire. Il profita de ce voyage pour publier les institutions de physique de Madame du Châtelet, avec une préface de sa façon, et ce livre parut chez les mêmes libraires associés qui, 5 ans plus tard, mirent au jour les mémoires de Perse. Le portrait satirique de Voltaire, que l'éditeur ajouta dans la seconde édition, fut peut-être une vengeance de Van Duren, qui aurait trouvé plaisant de se moquer, sous le nom supposé de Kojachid, de l'auteur dans son propre ouvrage. Aussi était-il d'un orgueil insoutenable. Les grands, les princes même, l'avaient gâté au point qu'il était impertinent avec eux, impudent avec ses égaux et insolent envers ses inférieurs. Il avait l'âme basse, le cœur mauvais, le caractère fourbe. Il était envieux, critique mordant, mais peu judicieux, écrivain superficiel, d'un goût médiocre. Quoique né avec un bien fort honnête, il avait un si grand penchant à l'avarice qu'il sacrifiait tout, loi, devoir, honneur, bonne foi, à de légers intérêts. Comment expliquer le silence de Voltaire à l'égard d'une critique aussi sanglante, lui qui rendait coup pour coup à ses ennemis, lui qui ne pardonnait pas la moindre attaque contre ses ouvrages, et qui, en l'année où fut imprimé ce portrait si ressemblant, s'adressait à Moncrif, lecteur de la Reine, pour obtenir la permission de poursuivre le poète roi, qui avait comblé la mesure de ses crimes en répandant un libelle diffamatoire dans lequel l'Académie était outragée et Voltaire horriblement déchiré. Correspondance générale, lettre à Moncrif, mars 1746. Enfin, il est incontestable qu'à l'époque de la publication des Mémoires de Perse, Voltaire travaillait sur des matières analogues. Il préparait le siècle de Louis XIV et traitait en compte des sujets orientaux que les lettres persanes avaient mis à la mode. Babonne, Memnon, Zadig sont contemporains des Mémoires de Perse et Voltaire enviait probablement à Montesquieu la popularité des lettres persanes. Mais, me demandera-t-on, pourquoi Voltaire n'a-t-il pas plus tard avoué un ouvrage digne de sa naissance à quelques égards ? Si Voltaire eût fait cet aveu, tous les doutes seraient levés et je n'aurai pas besoin de chercher à déchirer le voile de l'anonyme sous lequel je crois apercevoir l'auteur du siècle de Louis XIV, ouvrant les voies, pour ainsi dire, à un fait nouveau qu'il voulait tirer de vive force des archives de la Bastille. Veut-on une pure supposition qui a pourtant de quoi satisfaire la vraisemblance ? Je suppose que le maréchal de Richelieu, possesseur du secret de l'homme au masque, se laissa surprendre par les prières et les manœuvres adroites de Voltaire, qui fut initié, sous la foi du serment, dans ce ténébreux mystère que possédaient seuls quelques serviteurs intimes de Louis XIV. C'est là du moins ce qu'on peut inférer de ce passage des Mémoires de Perse, où il est dit que le secret a été mal gardé et que les grands sont exposés à confier leurs secrets à plusieurs gens, parmi lesquels ils s'en trouvent toujours d'indiscrets. Voltaire, qui était indiscret, n'eut pas plutôt connaissance de l'énigme, sinon du mot de cette énigme commise à la fidélité de 3 ou 4 personnes, qu'il se sentit tourmenté d'un désir immodéré de révéler ce qu'il savait et peut-être de deviner davantage. Mais c'était encourir la vengeance du roi et la haine ou le mépris du duc de Richelieu. D'ailleurs, la Bastille, qui avait retenu si longtemps dans ses entrailles de pierre l'existence et le nom d'un prisonnier d'État, pouvait ensevelir une seconde fois et à jamais l'imprudent écrivain pour le punir d'avoir ajouté une nouvelle strophe au « j'ai vu ». Or, Voltaire trouvait bon tous les moyens capables de faire triompher la vérité et la raison. Il ne craignait pas même de recourir au mensonge et de s'affubler d'un déguisement quelconque, avec la certitude d'être reconnu à son style et à son esprit. Ainsi, tour à tour, il s'intitulait « Aaron Matataï, Jacques Aymon, Akakia, etc. » Il créait 100 autres pseudonymes plus ou moins transparents. Ou bien gardant l'anonyme dans ses ouvrages les plus importants, comme dans les plus minces opuscules, il employait sans cesse les presses clandestines de Hollande. On comprend qu'il n'ait pas revendiqué l'honneur d'un livre qui aurait pu le brouiller avec ses protecteurs, le maréchal de Richelieu et Madame de Pompadour, dans la plus brillante période de sa fortune de courtisan, lorsque les grâces de Louis XV l'arrêtaient à Versailles, lorsqu'il était l'hôte de la reine d'Étiole, lorsqu'il se prosternait devant le soleil de Fontenoy et qu'il étalait avec orgueil ses titres de gentilhomme ordinaire du roi et d'historiographe de France. Je pense donc que Voltaire a voulu mettre en circulation, par une voie détournée, l'histoire du masque de fer, pour avoir le droit de s'expliquer sur un sujet qu'il n'eût point osé aborder en face si quelqu'un n'avait pris l'initiative. Ce quelqu'un ne fut autre que lui-même. Par cette tactique, il devint maître de traiter en public un point historique fort singulier qu'il n'avait pu aborder encore qu'en particulier avec le duc de Richelieu, sous le sceau du secret le plus inviolable. Voltaire ressemblait beaucoup à ce barbier du roi Midas que la fable nous représente, creusant la terre pour se soulager d'un secret confié et pour répéter dans ce trou « Le roi Midas a des oreilles d'âne ». Voltaire publiait volontiers tout ce qu'il savait, et même souvent ce qu'il ne savait pas, bien différent de Fontenelle, qui, la main pleine de vérité, refusait de l'ouvrir. Dès lors, le prisonnier masqué passa en tradition dans le grand monde, et Voltaire fut peut-être autorisé par Richelieu lui-même à confirmer ce fait extraordinaire au lieu de le démentir. Voilà pourquoi l'auteur des Mémoires de Perse ne se dévoila pas. Il faut remarquer aussi que Voltaire, sans entrer dans aucune explication, soutint toujours que personne avant lui n'avait publié l'anecdote du masque de fer. Suite du récit. N'ayant d'autre dessein, dit l'auteur, page 20, deuxième édition, que de raconter des choses ignorées ou qui n'ont point été écrites ou qu'il est impossible de taire, nous allons passer à un fait peu connu qui concerne le prince Giafer, Louis de Bourbon, comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière. Cali, au Majou, le duc d'Orléans, régent, alla visiter dans la forteresse d'Ispahan, la Bastille, où il était prisonnier depuis plusieurs années. Cette visite n'eut vraisemblablement point d'autre motif que de s'assurer de l'existence d'un prince cru mort de la peste depuis plus de 30 ans, et dont les obsèques s'étaient faites en présence de toute une armée. Shah Abbas, Louis XIV, avait un fils légitime, Sefi Mirza, Louis, dauphin de France, et un fils naturel, Giafer. Ces deux princes, différents de caractère comme de naissance, étaient toujours en querelle et en rivalité. Un jour, Giafer s'oublia au point de donner un soufflet à Fessi Mirza. Shahabaz, informé de l'outrage qu'avait reçu l'héritier de sa couronne, assemble ses conseillers les plus intimes et leur expose la conduite du coupable qui doit être puni de mort selon les lois du pays. Mais un des ministres, plus sensible que les autres à l'affliction de Shahabaz, imagina d'envoyer Giafer à l'armée, qui était alors sur les frontières du côté de Feldran, la Flandre, de le faire passer pour mort peu de jours après son arrivée et de le transporter de nuit avec le plus grand secret dans la citadelle de l'île d'Ormus, les îles Sainte-Marguerite, pendant qu'on célébrerait ses obsèques aux yeux de l'armée et de le retenir dans une prison perpétuelle. Cet avis prévalut et fut exécuté par l'entremise de gens fidèles et discrets, de telle sorte que le prince, dont l'armée pleurait la mort prématurée, conduit par des chemins détournés à l'île d'Ormus, était remis entre les mains du commandant de cette île, lequel avait reçu d'avance l'ordre de ne laisser voir son prisonnier à qui que ce fût. Un seul domestique, possesseur de ce secret d'État, avait été massacré en route par les gens de l'escorte qui lui défigurèrent le visage à coups de poignard afin d'empêcher qu'il fût reconnu. Le commandant de la citadelle d'Ormus traitait son prisonnier avec le plus profond respect. Il le servait lui-même et prenait les plats à la porte de l'appartement des mains des cuisiniers dont aucun n'avait jamais vu le visage de Giafer. Ce prince s'avisa un jour de graver son nom sur le dos d'une assiette avec la pointe d'un couteau. Un esclave, entre les mains de qui tomba cette assiette, crut faire sa cour en la portant au commandant et se flatta d'en être récompensé. Mais ce malheureux fut trompé et on s'en défit sur le champ afin d'ensevelir avec cet homme un secret d'une si grande importance. Giafer resta plusieurs années dans la citadelle d'Ormus. On ne la lui fit quitter pour le transporter dans celle d'Ispahan que lorsque Shahabaz, en reconnaissance de la fidélité du commandant, lui donna le gouvernement de celle d'Ispahan qui vint à vaquer. On prenait la précaution, tant à Ormus qu'à Ispahan, de faire mettre un masque au prince lorsque, pour cause de maladie ou pour quelque autre sujet, on était obligé de l'exposer à la vue. Plusieurs personnes dignes de foi ont affirmé avoir vu plusieurs fois ce prisonnier masqué et ont rapporté qu'il tutoyait le gouverneur, qui, au contraire, lui rendait des respects infinis. Si l'on se demande pourquoi, ayant de beaucoup survécu à Shahabaz et à Sefi Mirza, Giafer n'a pas été élargi comme il semble que cela aurait dû être, qu'on fasse attention qu'il n'était pas possible de rétablir dans son état, son rang et ses dignités, un prince dont le tombeau existait encore et des obsèques duquel il y avait non seulement des témoins, mais des preuves par écrit dont, quelque chose qu'on pût imaginer, on n'aurait pas détruit l'authenticité dans l'esprit des peuples, encore persuadés aujourd'hui que Giafer est mort de la peste au camp de l'armée du Feldran. Ali Omajou mourut peu de temps après la visite qu'il fit à Giafer. Cette version, source première de toutes les controverses sur ce sujet, fut adoptée d'abord généralement. Elle se rapportait assez bien et avant un examen sérieux à des faits qui s'étaient passés sous le règne de Louis XIV. Le comte de Vermandois partit en effet pour l'armée de Flandre peu de temps après avoir reparu à la cour, dont le roi l'avait exilé, parce qu'il s'était trouvé dans des débauches italiennes avec plusieurs gentilshommes. « Le roi, dit Mademoiselle de Montpensier. » Mémoire de Mademoiselle de Montpensier, tome 43, page 474, deuxième série de la collection des mémoires relatives à l'histoire de France, publiée par Petitot. N'avait pas été content de sa conduite et ne le voulait point voir. Le jeune prince, qui donna par là beaucoup de chagrin à sa mère et qui fut si bien prêché qu'on croyait qu'il se fût fait un si fort honnête homme, ne resta à la cour que 4 jours, arriva au camp devant Courtrai au commencement du mois de novembre 1683, se trouva mal le 12 au soir et mourut le 19 d'une fièvre maligne. Mademoiselle de Montpensier dit que le comte de Vermandois tomba malade d'avoir eu trop d'eau de vie.